Louis Le Vauchel nous avait rejoints en novembre 1915. Sa blessure était très semblable à la mienne. Un trou au milieu du visage, comme si les chairs avaient été aspirées de l'intérieur. Les photos de sa femme et de ses fils reposaient à son chevet. Pendant les premiers mois de guerre, la hiérarchie encourageait les blessés du visage à rester enfermés, même lorsque leur état leur permettait de sortir. L'étalage de nos blessures risquait de compromettre le moral d'une nation engagée dans une guerre qu'on ne parvenait pas à conclure et qui exigeait un engagement croissant. Les visites étaient autorisées au compte-goutte et se déroulaient dans un parloir au rez-de-chaussée. Le Vauchel écrivait fréquemment à sa famille mais n'avait pas eu le courage, comme chacun de nous, d'avouer la gravité de son état. La première visite de sa femme et de ses enfants eut lieu le 21 juin 1916. Dans la matinée, Le Vauchel m'avait demandé de le conseiller pour sa tenue. Il était agité comme un enfant. Je revois à son retour sa grande silhouette. Comme il n'était pas en état de parler, il se laissa tomber sur sa couche. Au réveil, que je savais d'expérience être le moment de la plus grande difficulté morale, je m'approchai de son lit. Si mon odorat ne m'avait pas fait défaut, j'aurais pu être alertée par l'odeur du sang répandu. Il s'était donné la mort. Ni sa femme, ni ses enfants ne l'avaient reconnu. Le plus grand des enfants s'était enfui en courant en criant « C'est pas mon papa! Pas mon papa !» Sa femme avait repris les enfants par la main, lui promettant de revenir quand il serait plus en état. Nous n'évoquions jamais l'avenir entre nous, mais je commençais à y penser, par petites touches successives. Il s'annonçait aussi douloureux que le passé, ou plus. Le passé nous avait pris par surprise, comme la foudre sur un arbre tranquille. L'avenir s'approchait à petits pas de vieillard. Un jour ou l'autre, il faudrait se décider à sortir pour de bon. Nous avions, pour gagner du temps, la Libye de nouveau qui arrivait par train entier de Verdun. Nous avions de quoi nous occuper. Toutes les semaines, un nouvel arrivant tentait de se donner la mort. Nous, les anciens, devons persuader les pauvres gosses qui avaient perdu un ou plusieurs sens qu'il leur restait de bonnes raisons de vivre. Ils ne tarderaient cependant pas à comprendre qu'ils n'avaient pas seulement perdu le goût, l'odorat, l'ouïe ou la vue, mais devraient en outre faire une croix sur le désir. Veil passait de l'un à l'autre comme un félin et savait repérer les plus fragiles. Il les bousculait par ses plaisanteries qui faisaient rire même ceux qui n'avaient plus de bouche. Il organisait des tournois de cartes, enseignait les échecs. Il avait même reconstitué une sorte de cabine d'aéroplane où il apprenait des rudiments de pilotage au nouveau qui ruminaient entre deux opérations. Et aucun blessé ne pouvait repartir sans une maquette de biplan en carton ou en bois. L'hiver 1916 fut un hiver de trop. Bonnard m'avait envoyé une lettre triomphale à la mi-octobre pour m'annoncer qu'il avait enfin obtenu d'être envoyé au front et qu'on allait le verser dans l'artillerie. Je pensais qu'on allait l'utiliser pour des calculs de trajectoire plutôt que pour le tir. Le 23 décembre, je reçus une lettre de ma mère, m'annonçant qu'Alain venait d'être tué dans un bombardement. Jusque-là, je n'avais jamais douté de cette guerre, de la nécessité de la faire, et j'avais accepté d'en souffrir jusqu'à la perte de moi-même. Elle venait de me prendre mon plus vieil ami, celui qui, dans mon esprit, devait être le dernier à périr. Curieusement, j'avais le sentiment d'être confronté à la mort pour la première fois. Cette guerre devenait absurde, et le simple fait de le reconnaître nous rendait fragiles. Jusqu'où faudrait-il aller pour entrevoir sa fin? J'avais compté sur Alain pour après. J'avais besoin de son amitié pour revenir à la vie, pour m'aider à accepter le regard des autres. Mais cette guerre ne respectait rien. Elle avait emporté Bonnard. Le 2 février 1917, la surveillante pénétra dans la salle et se dirigea vers moi, un large sourire aux lèvres. « Lieutenant Fournier, vous avez de la visite. »« Qui ?»« Votre sœur. Je lui ai dit que vous étiez là et que vous étiez en pleine forme. Elle avait l'air tellement inquiète, la pauvre jeune fille. Elle m'a même demandé si vous n'aviez pas perdu un bras ou une jambe. Je lui ai répondu qu'il n'y avait rien du tout de ça, que vous étiez entier. Elle vous attend au parloir. » Entier. Cette femme en avait trop vu. Elle ne se rendait plus compte. J'avais envie de vomir. J'ai mis mes vêtements en tremblant. J'ai repensé à Le Vauchel. Je me suis promis de garder ma dignité et de ne pas souffrir quoi qu'il arrive. Je l'ai aperçue du fond du couloir. J'aurais tant voulu la protéger, mais il était trop tard. C'est probablement ma démarche hésitante qui a d'abord attiré son attention. Elle est venue à ma rencontre. Puis je l'ai vue porter ses mains à ses yeux avant de venir s'effondrer sur ma poitrine. Je suis restée immobile. Nous nous sommes assis dans le parloir, l'un à côté de l'autre. Je lui ai longuement parlé d'elle, de l'adolescente que j'avais quittée, de la femme que je venais de retrouver. Avant qu'elle ne parte, je lui ai recommandé de prendre soin de notre famille. Je lui ai fait remarquer qu'elle m'avait reconnue et que tous mes camarades n'avaient pas eu cette chance. Elle s'en est allée, titubante, me promettant de revenir bientôt. Je me suis demandé si elle en aurait la force. Les journées s'étiraient, sans émotion. La grande offensive du général Nivelle nous sortit de cet engourdissement. Le massacre fut tel que, pour la première fois, on dut garer des gueules cassées dans les couloirs. Pour la première fois aussi, nous sentîmes la révolte et la rancœur de soldats qu'on avait envoyés au casse-pipe pour rien. Même les officiers n'avaient plus cette belle fierté de l'ouvrage nécessaire et ne se privaient pas, pour ceux qui en étaient encore capables, de beugler contre cet état-major d'abrutis. L'entrée des Américains dans la guerre calma les esprits. On allait peut-être en finir. La nouvelle de l'armistice, le 11 novembre 1918, a déclenché un grand mouvement de joie à notre étage. Nous nous sommes tous embrassés, certains étaient secoués d'interminables sanglots. C'était aussi un immense soulagement. Tout cela n'avait pas été pour rien. J'ai quitté le Val-de-Grâce le 4 avril 1919, un matin de printemps et de pluie glaciale. Mes 16 opérations ne m'avaient pas rendu visage humain. Maintenant que les canons s'étaient tus, que des cohortes de soldats retrouvaient les leurs dans l'allégresse, nous nous sentions les derniers des vivants. Le temps nous trompe. Je m'attendais à retrouver Paris tout à la joie de la victoire. J'avais imaginé que la fête se prolongerait jusqu'à ma sortie. Au lieu de cela, le monstre paraissait assoupi. Les femmes l'avaient soutenu à bout de bras. Elle semblait épuisée. Dans cette ville, tout à son activité retrouvée, les hommes jeunes et entiers semblaient rares et presque suspects de ne pas s'être fait tuer. On aurait pu imaginer qu'après une guerre aussi totale que celle-ci, nous allions connaître de grands changements. Il n'en était rien. Chacun retrouvait ses habitudes comme de vieilles pantoufles. J'étais convaincue que c'était bien la dernière des guerres qui s'achevait. D'ailleurs, les journaux le disaient. Ce qu'on avait imposé aux Allemands nous mettait à l'abri de la guerre pour toujours. C'était le début d'une période où nous fûmes très sollicités par le ministère de la guerre qui nous adressait régulièrement des invitations pour le théâtre, l'opérette, le concert. Nous formions un spectacle dans le spectacle avec nos visages bandés qui, à l'entracte, concentraient l'attention du public. On entendait parfois dans le silence le sifflement respiratoire d'un de nos camarades blessé de l'intérieur par les gaz. Le 14 décembre, on donna le Requiem de Fauré au théâtre des Champs-Élysées. J'aimais ce Requiem. Il me faisait pleurer. Ses larmes jaillissaient de la rencontre entre le meilleur de l'homme et le souvenir des horreurs qui avaient failli conduire l'humanité à sa ruine. Elle était là. Son visage m'apparut comme la proue d'un navire. Son profil parfait semblait flotter dans la lumière. Son regard, dans le contre-jour, m'offrait des couleurs qui n'avaient jamais quitté ma mémoire. Je me sentis défaillir. Je me glissais dans la foule pour gagner la sortie. Je restais de longues minutes dehors, sous la pluie battante. Lorsqu'elle parut enfin, elle était au bras d'un homme de mon âge. Au moment où je sentais la haine me gagner, Clémence renvoya son prétendant de ce geste de la main qu'ont les femmes pour couper court. Elle monta dans un taxi à quelques mètres de celui que j'avais réservé. Je m'engouffrais dans le véhicule en ordonnant au chauffeur de ne pas se laisser distancer, à aucun prix. La poursuite dura près de 10 minutes, sous un déluge de neige fondue. Le taxi s'immobilisa finalement, place de Breteuil. Je connaissais désormais son adresse et me sentis rassurée. Le dimanche matin, la neige s'était remise à tomber à gros flocons, épais et collants. Je m'installai sur un banc face à son immeuble, dès 7 heures du matin, pour être certain de ne pas la manquer. 2 heures passèrent. Je me décidai à pénétrer dans le couloir que je traversais la tête haute, ignorant la concierge. J'étais assis sur les dernières marches de l'escalier depuis 3 quarts d'heure, lorsqu'une petite fille s'immobilisa à quelques mètres de moi. Elle devait avoir 4 ou 5 ans. Elle ressentit ma gêne et s'approcha à une marche de moi. Elle se mit à me parler en inclinant légèrement la tête. « Ils t'ont fait mal ?»«
Oui, un peu. »«
C'était des Allemands ?»«
Oui. »
« Mais maintenant, ils sont partis ?»«
Ils sont partis. » »«
Pour toujours ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, une jeune femme l'avait rejointe et prise par la main. Une autre femme descendait l'escalier d'un pas lent et régulier. Avant qu'elle apparaisse, j'entendis le son de sa voix qui interpellait celle qui devait être la gouvernante de l'enfant. Je reconnus cette voix comme si elle m'était familière. Comme elle s'apprêtait à me dépasser, je murmurais. « Vous êtes en retard. »«
Qui êtes-vous ? »
Elle ne paraissait pas offensée, à peine surprise. Je crois bien que nous avons partagé la dernière nuit de paix. Son visage s'illumina quelques secondes, puis s'assombrit sous l'effet de la réalité.
Adrien ?
Si j'avais su, je... Il n'y a pas de place pour la culpabilité ou la commisération. Elle me semblait si belle dans ce contre-jour d'escalier, sa peau si blanche rehaussée par un regard qui déroulait des années de souvenirs. Et votre pianiste, celui qui nous a valu cette première rencontre? Il est mort au front, d'une pneumonie dans les premiers jours de l'hiver. C'est à moi d'être désolée. C'est alors que me vint à l'esprit une étrange conclusion. Cette petite fille qui sautillait dans la neige. Je ne voyais pas de façon d'aborder le sujet sans risquer de blesser Clémence. Un long silence s'installa entre nous. Je lui demandai l'âge de sa fille. Ce n'était pas la vraie question. Elle me fit la vraie réponse. Elle est née en août 1915. Ce n'est pas votre sang qui coule dans ses veines. Comme la neige rendait le trottoir glissant, elle s'accrocha à mon bras. Je voudrais tant que vous me pardonniez. Vous pardonnez quoi? Ce n'est pas vous qui avez envoyé l'obus. D'ailleurs, vous m'aviez abandonnée avant ma blessure, et la chirurgie fait d'énormes progrès. Peut-être retrouverai-je le visage qui vous avait attiré. Je voudrais que nous restions amis. C'est un os qu'on donne aux chiens. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous blesser, ajoutai-je en m'apercevant que cette phrase lui avait fait beaucoup de mal. À vrai dire, je ne sais pas si je souhaite devenir votre amie. Nous ne l'avons jamais été. J'ai trois amis aujourd'hui qui ont traversé les mêmes épreuves que moi. Je dois vous avouer quelque chose, dit-elle. Après la mort du père de ma fille, j'ai voulu reprendre contact avec vous. J'ai demandé à un ami de vous porter une lettre. Je n'étais pas certaine de l'adresse et je ne me souvenais pas non plus de votre nom. Il l'a portée, mais était-ce la bonne porte? Vous ne pouviez pas vous habituer à la solitude. J'avais simplement envie de vous revoir, de retrouver cette attraction qui émanait de vous. Je n'ai plus que la répulsion à vous offrir. On ne vous a pas fait assez de mal pour que vous cherchiez à vous en faire vous-même? Ceux d'entre nous qui ont survécu à leurs blessures savent qu'ils sont condamnés à un certain réalisme. C'est pour cela que j'accepte votre amitié, par réalisme. Alors nous nous reverrons? Sans doute. Je ne suis pas historien et je n'ai pas l'intention de le devenir. Ce n'est pas parce qu'on a été intimement mêlé à une époque qu'on peut prétendre en détenir la substance. Je voudrais cependant me laisser la liberté de dater, sinon un événement, du moins le début d'une époque, celle d'une France qui sacrifie à la peur, qui se cherche des boucs émissaires. Il me semble que cette attitude, si opposée au caractère de ceux de 14, a commencé à prendre le dessus à partir des années 20.